France Musique. Musicopolis. Édouard Colomb, la passion de la jeune musique. Le nom de Colonne est bien connu des mélomanes parisiens. L'orchestre Colonne est en effet l'un des plus anciens orchestres français avec ses presque 150 ans d'existence. On connaît moins sans doute le prénom d'Édouard, celui-là même qui a fondé l'orchestre en 1873. C'est avec lui que je vous propose de faire connaissance aujourd'hui. C'est bien sûr Édouard Colomb qui dirige ici la marche hongroise de la Damnation de Faust de Berlioz, enregistrée en 1908 ou 1909. Colomb est l'un des premiers chefs qui a réalisé des enregistrements sur cylindre, transférés ensuite sur disque. C'est émouvant, ça nous permet de nous faire une première idée de sa direction. Après avoir entendu ce témoignage sonore, voyons un peu ce que nous apprend la lecture du journal Le Ménestrel sur l'évolution de la carrière d'Édouard Colomb et la manière dont il est perçu. En 1877, à 39 ans, il est qualifié de « jeune et vaillant chef d'orchestre ». En 1886, à 48 ans, il est « le sympathique chef d'orchestre des concerts du Châtelet ». Enfin, en 1900, à 62 ans, il est devenu « l'éminent chef d'orchestre ». Toujours inlassable. Jeune et vaillant, sympathique et éminent, ces qualificatifs évoquent davantage la personne que la direction d'Édouard Colomb. En voici une description un peu plus parlante. Monsieur Colomb, je vous lis Le Ménestrel du 28 avril 1889, est un chef d'orchestre qui a son originalité propre. Certes, celui-là n'a rien de la rectitude compassée et autoritaire du chef d'orchestre métronome qui bat mathématiquement la mesure et glace ses exécutants non moins qu'il les dirige. La manière de conduire de M. Colomb consiste plutôt dans une sorte de mimique communicative que son orchestre comprend à merveille et qui, en le guidant, lui laisse une certaine élasticité. Il en résulte que cet orchestre est vivant, qu'il a une part de spontanéité intelligente qui donne aux œuvres interprétées un coloris très frappant. Le public lui-même se ressent de cette manière d'être et il se livre davantage à son impression propre. Il n'y a chez lui ni convenu ni parti pris et voilà ce qui donne au concert du Châtelet une si curieuse originalité et ce qui justifie l'entraînement des foules. Décrite à grands traits la direction d'Édouard Colomb, revenons un peu à la création de son orchestre en 1873. C'est l'éditeur George Hartmann qui en serait l'instigateur. Celui-ci, qui publie alors les ouvrages des jeunes compositeurs français, a besoin de faire entendre les partitions qu'il voudrait vendre. Il décide donc d'organiser une saison de concerts au Théâtre de l'Odéon, le Concert National, et il s'adresse à Édouard Colonne pour les diriger. Colonne a alors une expérience de l'orchestre qu'il a acquise en tant que violoniste dans deux institutions, à l'Opéra d'une part et au Concert Populaire de Jules Padeloup d'autre part. Il aurait aussi dirigé une troupe d'opérettes en tournée dans les deux Amériques. Bref, Colonne a 34 ans, il se lance dans l'aventure avec enthousiasme. Les quotidiens convoquent le public le 2 mars 1873 au Théâtre de l'Odéon à Paris. À 2 heures précises, pour le premier des concerts annoncés sous le nom de « Concert National ». Voici, lit-on, le programme de cette matinée qui paraît devoir être des plus intéressantes. Symphonie romaine de Mendelssohn, Rêverie de Schumann, concerto en sol mineur de Saint-Saëns, exécuté par l'auteur, Jeux d'enfants, petite suite d'orchestre de Bizet, Le Roi des Aunes, ballade de Schubert, chantée par Madame Pauline Viardot, accompagnée par Monsieur Camille Saint-Saëns. Carnaval, numéro 4 de la suite d'orchestre d'Ernest Guiraud. L'orchestre sera dirigé par Monsieur Édouard Colonne. La lecture du programme du premier concert national, dirigé par Édouard Colonne, donne tout à fait bien l'idée des organisateurs. Sur les 6 œuvres, 3 sont de compositeurs germaniques, morts. Néanmoins, l'œuvre la plus ancienne, Le Roi des Aunes de Schubert, a moins de 60 ans, et celle de Mendelssohn et de Schumann, respectivement 43 et 38 ans. Les autres œuvres sont de compositeurs français dans leur trentaine, et donc tout ce qu'il y a de contemporaine. Les Jeux d'enfants de Bizet sont même donnés en création. Les prochains concerts de la série, au printemps 1873, continueront sur la lancée, avec le jeudi saint, la création de Rédemption de Franck, et le vendredi saint, celle de Marie-Magdeleine de Massenet, avec Pauline Viardot dans le rôle-titre. À la rentrée d'automne 1873, le Concert national déménage et passe du théâtre de l'Odéon, rive gauche, au théâtre du Châtelet, rive droite. Le Ménestrel juge le programme excellent, avec pour représenter la musique allemande, je cite, « la symphonie en La de Beethoven, merveilleusement rendue, avec une étonnante ardeur par le jeune orchestre de M. Colonne ». Le journal nous signale aussi, pour ce qui est de la musique moderne, le concerto pour violon de Max Bruch, joué par Pablo de Sarasate. Enfin, écrit le chroniqueur, la musique française avait sa part avec la valse des sylphes de Berlioz et la toute charmante musique de l'Arlésienne de M. Georges Bizet. Séance extrêmement intéressante, nous le répétons, et dont le résultat fait le plus grand honneur au jeune chef d'orchestre du Concert national, M. Édouard Colonne. Cette valse des sylphes, extraite de la Damnation de Faust, est la première pièce de Berlioz que Colonne présente au public parisien. Il la donne deux fois en 1873. Puis en 1874, il fait entendre d'autres courts extraits, l'ouverture du corsaire, le trio de l'Enfance du Christ et la Marche troyenne. Enfin, en janvier 1875, il se lance et il va jouer deux dimanches de suite l'Enfance du Christ en entier. Puis à l'automne, ce sera le tour de Roméo et Juliette. Deux œuvres de Berlioz, dont certains extraits étaient parfois entendus dans les concerts parisiens, mais qui ne faisaient jamais l'objet d'écoutes intégrales. Thank you. partir de 1875, Berlioz va devenir le fer de lance des programmations d'Édouard Colonne. Il est bientôt reconnu comme le meilleur de ses interprètes. En 1903, pour le centenaire Berlioz, on lui demande quelques mots sur le maître. Dans les œuvres de Berlioz, écrit-il, les sentiments et les passions sont exprimés avec une intensité inouïe. Ainsi, une interprétation qui ne serait que parfaite serait une interprétation fausse. Il ne faut point raisonner avec Berlioz, qui n'est point raisonnable. Il faut l'admirer dans son génie et l'aimer jusque dans ses erreurs. Il faut, pour le traduire, boire avec lui le narcotique de l'hélio et, halluciné comme lui, traverser le rêve effrayant de la symphonie fantastique. Il faut se jeter avec lui dans l'héroïque mêlée de la marche hongroise et, comme lui, en sortir triomphant. Il faut, comme lui, livrer son âme à Satan et le suivre sans trembler à travers la course à l'abîme jusqu'au séjour effroyable de l'éternelle damnation. Il faut, la nuit, sous le soleil de Vérone, aimer comme lui Juliette et rêver d'un amour infini dans un duo sans fin. Il faut se glisser avec lui dans le char minuscule de la reine Mab et accomplir avec lui en un tiers de minute un fantastique voyage au pays des fées.
Elle a pour chat une coque de noix que l'écureuil a façonné, les doigts de l'araignée ont filé ses parois. Durant les nuits, la fée croise mes équipages, galope follement dans le cerveau tapage, qui rêve et spibre tout en le sérénade au clair de lune sous la
En poursuivant sa promenade,
la petite reine s'abat sur le col bronzé d'un soldat. Il rêve canonnade et vive ses stockades, le tambour, la trompette. Il s'éveille, il a mangé, il prie en jurant toujours. Ses camarades, c'est mal qui faisait tout ce bacchanal. C'était l'encore qui, dans un rêve, habille la jeune fille et la ramène au bal. Mais le coq chante, le surprise, Mab fuit comme un éclair d'oreille.
L'éditeur Hartmann se retire en 1874 de l'entreprise du Concert National. Édouard Colonne a alors l'idée de fonder la Société civile financière des concerts du Châtelet. Le fonctionnement sera très particulier. Un groupe d'une dizaine de musiciens est élu en Assemblée générale, puis ce comité, qui se réunit chaque semaine, s'occupe de superviser les finances et les auditions de nouveaux musiciens, détermine les cachets, sélectionne les œuvres nouvelles, suit la réception du public, etc. etc. C'est qu'en effet, la concurrence est rude à Paris. Outre les théâtres lyriques, il y a déjà la Société des concerts du Conservatoire, les concerts populaires de Padeloup, deux orchestres qui ont pignon sur rue au moment où Colonne arrive, et, 8 ans après la création de celui de Colonne, Charles Lamoureux en crée un à son tour. Il faut donc jouer serré sur la programmation, sans cesse s'adapter, évoluer, et aussi avoir en quelque sorte son créneau privilégié. Ce sera Berlioz.
Thank you.
C'est seulement en 1909, un an avant sa mort, qu'Édouard Colonne va raccrocher sa baguette et laisser la direction de son orchestre, qui s'appelle désormais les Concerts Colonne, à Gabriel Pierné. En 36 ans de direction, il a eu le temps d'imprimer sa marque et de fidéliser un public nouveau pour la musique de son temps. Berlioz lui doit beaucoup, à titre posthume, pour avoir fait connaître toutes ses grandes œuvres, dont la préférée restera toujours la Damnation de Faust. Mais Colonne aura aussi joué tous les compositeurs de son temps, dont il défend les créations, y compris celles des compositrices, comme Augusta Holmès, Marie Jaël, Cécile Chaminade ou Clémence de Grandval. Ses programmations évoluent avec le temps. Il reste moderne et attaché à la jeune musique. Si dans les années 70, il fait la part belle aux œuvres de Franck, Saint-Saëns, Lalo ou Massenet, il fera entendre plus tard, et toujours avec une énergie inépuisable, Fauré, Enesco, Debussy et Ravel. La Feria de la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel, l'orchestre Colonne, dirigé par Pierre Dervaux, enregistré en 1960. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Monteil pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.